Donc, nous allons arriver à Paris à midi. Hein, nous sommes en plein vol depuis quelque temps. Et là, je vous fais atterrir aujourd'hui pour la dernière leçon d'essayer de... Là, on va faire trois choses. La première, c'est de finir le psaume 22 dans son rapport au Nouveau Testament. La dernière fois, on s'est attardé sur des questions qui, à mon avis, n'étaient pas inutiles, en particulier sur la structure du texte et puis les problèmes de critique textuelle. J'espère que vous avez compris l'histoire des manuscrits. Ce n'est pas parce qu'un manuscrit est ancien que son support, le texte qu'il nous présente pourrait lui-même être très ancien. Donc ça, c'est important à se mettre ça dans la tête. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui pour finir l'affaire du psaume 22, vous avez vu qu'il est très utilisé dans les récits de la Passion. Alors, il y a un peu deux questions à poser. La première, c'est quel est le sens de ce texte dans les récits de la Passion? Et la deuxième question, qui d'ailleurs n'est pas forcément de ma compétence, est-ce que ça peut remonter à Jésus ou pas? Est-ce que Jésus a vraiment dit ça sur la croix? Et parce que c'est pas parce que c'est écrit dans l'Évangile qu'il l'a dit que ça peut remonter à Jésus. À l'époque, les écrivains n'hésitent pas à mettre sur la bouche de quelqu'un un discours qu'il n'a jamais prononcé. Luc, dans les Actes, fait faire des discours à Pierre, à Paul et aux autres. On sait très très bien que ce sont des schémas, mais que le discours n'a pas été fait tel qu'il est raconté. Ça, je crois que vous n'avez pas trop de difficultés avec ça. La deuxième chose, évidemment, c'est quand on arrive à des paroles de Jésus ou à des actes de Jésus, de se demander quelle est la vérité, enfin, est-ce que ça peut remonter au Christ ou pas, est-ce que c'est une projection des évangélistes, c'est évidemment une des difficultés. Alors, ce psaume-là, comme vous l'avez vu dans la fiche que je vous ai donnée pour préparer, est extrêmement utilisé dans les récits de la Passion, à plusieurs reprises. Donc, il y a un certain nombre de références qui sont faites, entre autres les railleries des soldats dans Matthieu. Il tressèrent une couronne d'épines, ils se moquaient de lui, etc. Bon, ça peut renvoyer au psaume 22. Au moment de la crucifixion, le partage des vêtements renvoie au psaume qui lui-même parle du partage des vêtements. Bon, les injures également, enfin, je veux dire, et puis surtout cette fameuse phrase dans Matthieu et Marc, vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bon, dans les autres évangiles autres que Matthieu, on va retrouver sensiblement le partage des vêtements. Dans Marc également, mais vous allez voir que dans Marc, justement, il y a quelque chose de différent de Matthieu. Dans Saint Jean, c'est un petit peu pareil. On insiste sur les mains ou les pieds qui sont percés, vous savez, dans l'apparition à Thomas. Et on pourrait éventuellement penser à une allusion du psaume selon la Septante qu'habituellement cite Saint Luc ou Saint Jean. Ils ont plutôt tendance à citer la Septante que l'hébreu. Et la question, c'est effectivement que, vous avez vu la dernière fois, ils ont percé mes mains et mes pieds, ça n'a de sens qu'en grec. En hébreu, ça ne peut pas vouloir dire ça. Le fameux « kahari » comme un lion, où ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc, on voit que les racines de la passion sont relativement saturées par une référence au psaume 22. Et à partir de là, je dirais, il y a deux hypothèses. La première, c'est de dire, en fait, Jésus, à travers la phrase qu'il dit, Eli, Eli, lama sabachthani, commence le psaume 22 et il va jusqu'au bout. Donc c'était une thèse qu'on a longtemps attribuée, si vous voulez, dans l'interprétation des évangiles, de dire qu'en fin de compte, Jésus sur la croix murmure ces mots, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais en fait, il ne fait que, et les évangélistes à sa suite, donnent l'incipit, c'est-à-dire le commencement d'un psaume que Jésus aurait dit tout entier. Or, comme vous l'avez vu la dernière fois, ce psaume-là se décompose en deux grandes sections. Une première section de plainte, où je dirais que tout submerge le psalmiste, ou le priant de ce psaume-là, qui est écrasé par tout l'extérieur, et d'un Dieu qui est complètement lointain, mais il est comme encerclé par les ennemis, qui sont des animaux. Il est seul, et il fait allusion à ce que Dieu a fait avec les pères, à ce que Dieu a fait lorsqu'il est né, en l'adoptant. Bon, ça c'est la partie, si vous voulez, de plainte du psaume. Et puis la deuxième partie, au contraire, tu m'as répondu, et à partir de tu m'as répondu, à ce moment-là, le passé est presque relégué aux oubliettes, sinon que le psalmiste va passer son temps à raconter que Dieu l'a sauvé, et alors qu'il n'y a pas du tout de futur, il n'y a pas du tout d'avenir dans la première partie, dans la deuxième partie, au contraire, on se sépare entre un passé, un présent et un avenir. Un passé qui est central, si je puis dire, tu m'as répondu et je raconterai ce que tu as fait. On est au passé, vous voyez. Et lui, il est dans l'exultation et il y a un futur au sens que, à la fois, ça vise la génération qui vient, j'annoncerai ton nom à la génération qui vient et j'annoncerai ton nom jusqu'aux limites du monde. Il y a une espèce d'éclatement, si vous voulez, dans le temps et dans l'espace, alors que le psalmiste était dans un premier temps complètement enserré, là où complètement il est complètement dilaté dans une louange qui atteint l'espace et le temps. Et qu'est-ce qu'il raconte ? Ce que Dieu a fait pour lui, à savoir qu'il lui a répondu, qu'il l'a sauvé de tout ce qu'il avait. Donc ce serait formidable si Jésus, sur la croix, avait dit... en quelque sorte, tout ce psaume, qui est un psaume, bon, il y a un mauvais moment qui est la passion, mais il y a une espérance, à savoir qu'il va en sortir et il va pouvoir louer Dieu, etc. C'est l'interprétation qui a dominé pendant presque tout le XXe siècle. On disait, mais non, c'est pas possible que Jésus ait dit un truc pareil. Le psaume, le début, il n'est pas question d'abandon de Dieu, il est question d'une référence à un psaume qui parle de l'abandon, mais qui ensuite parle du salut que Dieu octroie. Donc, beaucoup d'auteurs ont dit, Jésus a récité sur la croix tout le psaume. Bon. Moi, je pense que vu l'état, enfin, si vous manquez d'idées, ou si vous manquez d'imagination, pour imaginer ce qu'est la crucifixion, vous verrez qu'on n'a pas tellement le loisir de réciter un psaume si long, ni le souffle. Parce que vous savez ce que c'est que là, en fait, là, il y a un bouquin qui est très bien fait, qui a été traduit en français, c'est un livre d'un Allemand sur la crucifixion, où il dégage un petit peu toute à la fois le nombre de crucifixions qu'on pratiquait dans le Proche-Orient à l'époque, autant chez les Juifs que les Romains ou chez les Grecs. C'est une pendaison. C'est une pendaison où on cloute ici on ne cloute pas les mains, on cloute vraiment le poignet pour que ça tienne, et c'est une pendaison. Et en fin de compte, celui qui est crucifié, qui est un supplice abominable, parce qu'il y a tout un côté de voyeurisme, c'est-à-dire que c'est sur une place publique, sur un lieu élevé, tout le monde peut voir, et le crucifier d'une certaine façon, l'histoire de la planchette qu'on mettrait sous les pieds, bon, éventuellement, je veux bien encore accepter ça, mais il finit par être, si vous voulez, pendu, et il ne peut plus respirer, c'est-à-dire que tout ce qui est respiration est bloqué par le fait qu'il est suspendu et que tout le corps est bloqué le long d'un poteau, quoi. Alors, on voit mal comment, dans ces conditions-là, on pourrait avoir quelqu'un qui dit tranquillement ce psaume qui est quand même assez long. Vous voyez. Qu'il le sache de mémoire, pourquoi pas. Enfin, j'imagine mal qu'il dise tout le psaume. Mais surtout, ça c'est ce qu'on a raconté pendant presque un siècle, la deuxième raison, c'est qu'on n'a pas suffisamment regardé de près, en particulier la manière dont Marc se sert de ce psaume. Et là, vous allez voir qu'on est obligé de changer d'avis face à cela. La première remarque qu'on peut faire, c'est que Marc cite bien le psaume 22, mais il le cite à l'envers. Et comme disent certains auteurs, il fait une lecture inversée du psaume, c'est-à-dire qu'il commence par citer le verset 19, 15, 24, donc le passage des vêtements. Ensuite, il cite en 15, 29 les versets 7 à 9. Et ce n'est qu'en 15, 34, c'est-à-dire beaucoup plus loin, qu'il cite le psaume 22, verset 2, c'est-à-dire le « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, si vous voulez, Marc est en train de citer le psaume, mais en le reprenant à rebours. Hein, au lieu de citer le psaume dans son ordre, il le cite à rebours. Et ça, c'est un détail que beaucoup d'exégètes s'en foutaient, je dirais un peu, en disant « bon, on a ce psaume-là », sans regarder qu'en fin de compte, Marc était en train de citer le psaume, mais à l'envers, hein, commençant presque par la fin, et par la fin de la première partie, et terminant, la dernière citation étant le verset 2. Donc il remonte le psaume au lieu de le citer dans l'ordre. Donc ce serait un argument pour dire qu'on voit mal comment Jésus aurait dit le psaume à l'envers, si vous voulez. Pas quoi. La deuxième affaire, c'est que le psaume 22 qui est cité à la croix, eh bien, donc est cité dans un ordre différent, et que la fonction de Marc, à la différence de Jean, par exemple, n'est pas de dire qu'à travers cette phrase-là, Jésus accomplit l'Écriture. Vous savez que dans Matthieu ou dans Jean, afin que s'accomplit l'Écriture, Jésus dit, etc. Alors dans Saint-Marc, il n'est pas dit « afin que s'accomplit l'Écriture ». Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Eh bien, Jésus se met à dire ce psaume. Donc, ça n'est pas présenté comme une citation qui s'accomplirait dans la croix. Ah, donc, deuxième argument, ça n'est pas présenté comme une citation de l'Écriture, mais c'est présenté justement autrement. Alors, c'est présenté comment ? Et si Marc a ce processus, c'est tout simplement pour nous dire, attention, je vais vous citer un texte que vous connaissez bien, qui vient de l'Ancien Testament, mais surtout n'identifiez pas Jésus au suppliant du psaume. C'est-à-dire que pour saint Marc, ce n'est pas une manière, en quelque sorte, de reprendre l'Ancien Testament pour, en quelque sorte, montrer qu'il s'accomplit en Jésus, mais il puise dans l'Ancien Testament une formule qui est assez bien connue et d'une certaine façon qui est de signifier l'abandon ou le pourquoi de l'abandon de Dieu. C'est-à-dire pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est une question que le Christ pose ou une question que la communauté s'est posée, c'est-à-dire que le Christ ait été abandonné sur la croix pose un vrai problème et il l'exprime à travers une phrase très classique. Je veux D'ailleurs, c'est classique dans le Nouveau Testament. Chaque fois qu'on a une phrase bien frappée dans l'Ancien, je vous ai montré ça dans les premières leçons, on va la reprendre dans le Nouveau et l'appliquer au Christ. Donc, à mon avis, pour saint Marc, à la différence de saint Jean, il ne s'agit pas d'accomplir les Écritures à travers cette phrase-là, mais au contraire de marquer presque en contrepoint l'écart qu'il peut y avoir entre ce psalmiste qui a été sauvé et le Jésus de la croix qui est complètement abandonné de Dieu. Vous voyez un peu le problème, hein? Donc, ici, ne prenez pas ça comme un accomplissement du psaume, mais comme l'inverse du psaume. Au fond, saint Marc, en changeant l'ordre d'apparition des versets du psaume dans son texte, est en train d'inverser le sens du psaume. C'est ça qu'on n'a pas vu la plupart des exégètes, que moi d'ailleurs je n'avais pas vu, c'est grâce à un exégète que j'ai vu ça. Des fois les étudiants voient des trucs comme ça, hein, parce qu'ils ils découvrent souvent les textes, donc ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Alors voilà, donc c'est la question qui est, pour éliminer, je dirais que Jésus ait dit tout le psaume, il y a encore un autre argument, en plus de ceux que je viens de donner, c'est qu'il n'y a aucune référence à la deuxième partie du psaume, dans les récits de la Passion. Hein? Et là, il n'y a aucune référence à la deuxième partie du psaume, c'est-à-dire la louange, dans les récits de la Passion, il n'y a que des références à la première partie du psaume, donc à la plainte. Donc là, il y a quelque chose. Alors, le fait qu'ils aient interprété ça comme Élie, il appelle Élie, hein, on dit ça à un moment donné. Bon, là, ça, c'est un truc assez calé. Mais le mot Eloi, Eloi ne peut pas être compris comme Élie. Parce que Élie, ça se dit Eliaou. On voit mal comment il peut y avoir. Bon, là, il y a quelque chose de. Tout ce qui est, comment dire, jeu de mots ou étymologie dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament est souvent suspect, disons, de ne pas correspondre à la réalité. Hein, il y a toujours. Mais là, je ne vais pas me lancer là-dedans, parce que c'est un truc un peu difficile. Et sur lequel je ne suis pas très au clair. Alors, est-ce que Jésus a pu dire cette parole? Prenons les arguments dans le sens où on les a. Le fait qu'il le dise en araméen est quand même une bonne garantie. Hein, je veux dire, Jésus parle araméen. Et j'ai dû vous dire ça, si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis, parce que comme j'enseigne dans la salle d'en face la veille, il y a des choses que je dis et je crois avoir dit dans l'autre salle. Jésus, la langue des Juifs à l'époque de Jésus, c'est l'araméen, donc qui est un peu comme l'italien par rapport au français, c'est quand même une autre langue. Vous avez vu, Sabachthani et non pas Azaphthani, il y a quand même des différences, mais on voit que c'est les mêmes racines. La langue du culte à la synagogue, lorsqu'on va lire la Torah, on la lit en hébreu. On la lit en hébreu, mais tout de suite, on va la traduire. Alors à Alexandrie, en Égypte, on va la traduire en grec, parce qu'on a la Septante, alors qu'en Palestine, on va la traduire en araméen, qui est la seule langue que les gens comprennent. Et puis, il parle un petit peu de grec ou de latin, tout simplement parce que l'occupant, et ce sont les Romains, et n'oubliez pas qu'à Rome, on parle surtout grec. La langue romaine, enfin la langue latine, ne va devenir une langue littéraire que assez tardivement, enfin sous l'Empire, mais avant, même si on a des grandes œuvres latines qui vont naître, c'est un petit peu quelque chose qui est... Mais la langue qui est parlée comme l'anglais, si vous voulez, l'anglais aujourd'hui est parlé partout, et on parlait anglais en Palestine, enfin on parlait... grec, qui est l'équivalent de l'anglais, le latin assez peu. Mais par exemple, quelqu'un comme Pilate, on voit bien qu'il parle anglais, il parle grec au peuple, beaucoup plus que le latin étant la plutôt une langue réservée au centre de l'Empire. Alors le fait qu'ils le disent en araméen serait un bon argument pour dire « bah oui, il l'a dit dans sa langue bon. ». Deuxième argument qui se complique un peu, le fait que c'est tellement scandaleux ce qui est dit à travers cette phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que le Christ puisse dire une chose pareille, eh bien que saint Luc, donc, qui écrit probablement après saint Marc et saint Matthieu, saint Luc n'a pas osé reproduire cette phrase. Là. Et à la place, il lui a substitué quelque chose de qui nous va mieux, si vous voulez, mais qui fait un petit peu l'impasse sur le drame de la croix que veut signifier vraiment saint Marc et saint Matthieu. Et il dit cette phrase que vous connaissez bien, qu'on chante au complice, enfin à l'office du soir, « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit », qui est un psaume de confiance, donc qui est dit par saint Luc à la place de « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors le fait que saint Luc ne l'ait pas reproduit, si vraiment, vraiment, ça avait été Jésus, il aurait pu difficilement ne pas le signifier. Alors c'est là qu'il faut un dernier argument, sur lequel vous allez vous faire une opinion. Dernier argument, c'est qu'il faut tenir compte des théologies différentes du Nouveau Testament. Saint Jean non plus ne le donne pas. Hein. C'est tout simplement que le sens de la croix en Marc, Matthieu, Luc et Jean n'est pas le même. C'est pas le temps de m'embarquer là-dedans, c'est un gros truc. Hein. Mais en gros, on peut dire que pour saint Marc, lui, il insiste, le gros problème, vous savez que dans saint Marc, il n'y a presque pas de récit de résurrection. Elles vont au tombeau, elles reviennent effrayées. Ça se termine comme ça. Après, on a fait un ajout, là, la finale du chapitre 16 de saint Marc a été ajoutée quand même pour ne pas désespérer Billancourt. Hein. C'est-à-dire qu'on a ajouté quand même tout un récit, qui est d'ailleurs une espèce de synthèse de tous les récits de la résurrection qu'on trouverait dans les autres auteurs du Nouveau Testament. Donc, manifestement, ça a été rajouté. Mais chez saint Marc, et il y a beaucoup d'autres indices dans Marc, le problème qu'il avait à résoudre, lui, surtout en milieu romain, c'est de décrire la biographie d'un héros qui a échoué. Je ne sais pas si vous voyez un peu le problème. Vous devez écrire la vie d'un héros ou d'un homme politique dont la vie se termine par un échec retentissant. C'est compliqué. Et dans le monde romain, on n'a pas le droit d'écrire la vie de quelqu'un qui n'est qu'une vie d'échec. Ça se fait pas. Donc saint Marc est un peu coincé entre l'obligation de présenter une vie de Jésus, ou d'écrire une vie de Jésus, et en même temps de montrer que cette vie-là, aux yeux de tout le monde, elle apparaît comme un échec au moment où il écrit. Alors, il va entre autres demander aux disciples, par exemple, de ne pas dire qui il est vraiment, puisque à la résurrection ou après Pâques, c'est pas entièrement clair, la communauté doit justifier l'échec de Jésus que représente la croix. Alors pour lui, le fait que Jésus soit abandonné de Dieu va très bien dans son sens. C'est-à-dire que Jésus est abandonné de Dieu, et par différence avec le psalmiste, n'est pas sauvé à la fin, comme un happy end, ça va tout à fait dans le sens de Marc. Voilà. Dans Matthieu, au contraire, il y a un accomplissement de l'écriture avec cette phrase, parce que saint Matthieu va insister davantage sur Jésus, le nouveau serviteur. Il y a autant de références au psaume 22 qu'à Isaïe 53, hein, mon serviteur qui va souffrir pour la multitude, avec une idée que cette mort-là est pour le salut. Bon, ce qui n'est pas forcément la perspective de Marc. Marc centre sur la personne de Jésus qui entre dans la mort, dans un abandon complet par rapport à Dieu. Et puis Saint-Luc, c'est pas tellement sa perspective. Et puis surtout, c'est un vrai scandale d'oser dire que Jésus a pu être abandonné par Dieu. Donc, il substitue autre chose. Alors moi, personnellement, au point où j'en suis, je serais plutôt pour dire que les textes qui sont cités dans la Passion sont plutôt liés aux théologies de Marc, Luc, Matthieu et Jean, et on peut difficilement attribuer à Jésus les paroles telles qu'elles sont dites. Alors voilà, ce serait un peu mon opinion aujourd'hui. Donc l'historicité de remonter à Jésus pour ces paroles-là me semble un petit peu compromise aujourd'hui. Alors si vous voulez des choses plus élaborées là-dessus, je vous conseille de lire l'ouvrage assez monumental, mais où il étudie ça avec beaucoup de, comment dire, de finesse et d'érudition. C'est John Paul Meyer, hein, Jésus. Alors, le titre anglais, c'est « Jésus, un juif marginal ». En français, c'est « un certain homme Jésus », quelque chose comme ça. C'est des bouquins de 1000 pages à chaque fois. Il y a 4 volumes, on attend le 5e volume. Et lui, il met en question cette parole-là pour les raisons que je vous ai données. C'est trop marqué par les théologies des auteurs qui sont cités, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus n'ait pas vécu sa mort dans un abandon, parce que la dernière fois, il y en a qui m'ont posé la question, c'est pas possible que Dieu abandonne son fils. Ben si, je veux dire, là, si vraiment Jésus n'a pas fait semblant d'être homme et est entré dans la mort comme un homme, il est entré dans la mort avec ce doute, et à la fois cette foi, parce qu'il y a les deux, le père Jacques Guillet a bien montré ça, il n'y a pas de foi sans doute. Lorsque vous mourrez, lorsque nous mourrons, je ne sais pas dans quel état on sera, mais maintenant on est plutôt souvent sous anesthésie, donc on ne sent plus rien, mais avec un minimum de conscience, l'impression qu'on est devant un mur, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose après, et en même temps je confesse que le dernier mot de la mort n'est pas la mort, mais c'est le Dieu des vivants, etc. Mais après ça, c'est de la théologie fiction, c'est-à-dire on va commencer à imaginer un tas de trucs. Mais entrer dans la mort, c'est nécessairement entrer dans le néant. Même des gens très, très saints, si vous voulez, ont douté de ça au moment de leur mort. Je pense à Thérèse de l'Enfant de Jésus, ma compatriote. Elle a douté que Dieu soit encore avec elle au moment de la fin de sa vie. Donc si vous doutez qu'il y a quelque chose après la mort, ou si vous pensez que Dieu nous abandonne dans la mort, vous êtes tout à fait dans la droite ligne de la plupart des mystiques et des grands saints qui doutent. Alors, le doute n'exclut pas la foi, et la foi n'exclut pas le doute. C'est vraiment dialectique, c'est-à-dire que je doute de cela, en même temps je fais confiance à Dieu. Mais je peux, on voit ça chez des... Moi j'ai accompagné pas mal de mourants dans ma communauté, là. Parce que ça meurt régulièrement, il y a des morts extrêmement paisibles de gens qui s'éteignent, et puis d'autres qui étaient pourtant des bonhommes assez solides, qui avaient vécu des choses assez extraordinaires, même dans leur vie, qui vivent ça sous forme d'angoisse. Je crois qu'on ne peut pas programmer sa mort. Je crois qu'il faut, justement, notre rôle quand on est auprès de personnes en train de mourir, c'est pas de projeter sur eux nos propres angoisses ou nos propres espérances. Je veux dire, c'est d'accueillir l'état dans lequel ils sont. Alors c'est un peu difficile parce que présent et tout en même temps permettre à chacun de vivre sa mort, si je puis dire. C'est un psaume qui est magnifique, hein, mais en même temps, le Nouveau Testament a très bien repris, tout simplement parce que les évangélistes voyaient bien que beaucoup d'éléments de la Passion s'accordaient avec ce psaume-là, ou ce psaume-là permettait de raconter la Passion. Vous pouvez prendre les deux hypothèses. Hein. Avec 3 ou 4 références, on avait de quoi construire un récit un peu circonstancié de la Passion du Christ, partage des vêtements, le cri d'abandon, et puis donc l'écrasement. crachats, les injures, etc. Bon, on voit bien que tout le récit est fait de ça, quoi. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Si vous voulez, sur le plan théologique, je n'ai pas de problème à accepter que le Christ puisse avoir dit cela. C'est-à-dire que sur le plan théologique, j'accepte tout à fait qu'en raison de l'incarnation, et surtout de ce qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire l'anéantissement du Christ dans l'humanité, parce qu'il ne s'est pas simplement contenté d'être homme, mais il a pris la condition, la pire, à savoir de la mort sur la croix, enfin, comme le dit très bien Paul, bon, il est passé quand même par le plus bas, si vous voulez, hein, de l'humanité. Donc je peux tout à fait accepter que Jésus se soit senti abandonné en raison de son incarnation. En même temps, et qu'il ait affronté la mort un peu dans le désespoir, dans le doute, comme la plupart des mystères. Et en même temps, dans la foi que peut-être son père peut en quelque sorte, tirer de cette mort. Mais justement, quand on entre dans la mort, on n'a pas l'autre face, tout le reste aussi. Ça, il faut bien voir. L'incarnation suppose qu'il n'a pas la vision claire qu'il va ressusciter trop. Il fait confiance à Dieu, mais il ne sait pas quelle forme ça va prendre. Que trop de discours sur, moi je vois ça dans les enterrements, bon, trop de discours sur la mort sont beaucoup trop imaginatifs. On dit, c'est pas... Qu'est-ce qu'ils en savent? Merde, c'est vrai, il y a un côté un peu. Entrer dans la mort, c'est vraiment entrer dans la nuit, quoi. Et la, alors la nuit de Pâques, la nuit de l'espérance, c'est-à-dire que Dieu se débrouillera comme il voudra. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est la mort du juste persécuté, quoi. Mais pas simplement une réplique du psaume 22, où Jésus s'appliquerait en quelque sorte à bien appliquer ce qui est écrit dans le psaume, mais pire que le psaume 22, puisqu'il n'y a pas l'espérance finale. Il insiste énormément sur la kénose, Marc, c'est-à-dire le fait que Jésus a pu se sentir abandonné. Et, bon, le fait que ce ne soit pas attesté dans Luc ni dans Jean, et que la fonction de la citation ne soit pas la même, qu'il ait fait un certain nombre de transformations du texte, fait qu'il faut prendre la phrase au sens brut, c'est-à-dire Jésus a dit dans sa langue maternelle, si je puis dire, enfin la langue qu'il parlait, il a exprimé sa détresse et son abandon, quoi. Ça, je crois que on est trop marqué aujourd'hui par le... On fait un peu l'impasse là-dessus, quoi, hein, dans nos sermons. C'est-à-dire, les sermons sont trop braqués sur... N'affolez pas la mort, c'est pas grave. C'est grave parce que je ne sais rien de ce qu'il y aura après. C'est pas de l'ordre du savoir. Moi, je me souviens, un jour, j'avais été voir une jeune femme qui était en train de mourir... Et que ses parents m'avaient envoyé voir. Bon, elle mourait d'un cancer, elle souffrait énormément. Et elle me dit, je sais que je vais mourir. Et alors elle me dit, je ne sais pas ce qu'il y a après. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, j'en sais pas plus que vous. Au niveau du savoir. Hein. Et ah bon, vous posez les mêmes questions que moi. Ben, j'ai exactement les mêmes questions que vous. Bon. Continue un peu à parler, bon. Et puis je lui dis non, entrer dans la mort, c'est entrer dans la nuit, c'est entrer dans quelque chose que je ne peux pas représenter, c'est ça la mort. Bon. Et je suis alors ses parents le lendemain m'ont dit dedans, vous l'avez un peu secoué, bon. Et puis je retourne la voir quelques jours après, et puis elle me dit ah, vous avez bien fait de me dire ça, parce que c'est, je m'aperçois qu'en fin de compte, vous m'avait fait sentir du doigt ce que je suis en train de vivre, c'est-à-dire ce passage vers le néant. Bon, peut-être après, bon, il y a quelque chose de moi qui va subsister, etc. Enfin, mais, et qui va subsister en Dieu, mais il n'y a pas cette espèce de passage, si vous voulez, un peu limpide, du four à la... Bon, ça, c'est de l'imagination. La mort, c'est vraiment quelque chose de redoutable, quoi. Même si aujourd'hui, on les fait très douces le plus possible, mais faut pas nourrir les gens en train de mourir avec des fausses espérances. Ça, je trouve que c'est un peu voler la mort de quelqu'un que de lui bassiner, si vous voulez, que ben, c'est rien, qu'après il va voir Dieu, c'est formidable, il va boire des vins comme il n'a jamais bu, etc. Bon, non, ça c'est bidon. Hein. Je crois qu'il faut accepter la réalité de la mort. Ah ben, elles sont très intéressantes, c'est-à-dire que les annonces de la Passion sont là, sont écrites après coup, bien entendu. Hein. Bon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les évangélistes vont ponctuer leur récit, et Marc entre autres, d'annonce de la Passion et de la Résurrection. C'est-à-dire pour dire, oui, effectivement, il est bien mort, mais il nous avait dit que ça n'en resterait pas là. Et donc, il ressusciterait d'entre les morts. Mais ça, je dirais que c'est écrit après la foi en la Résurrection. Parce qu'ils vont mettre du temps avant d'accéder à la Résurrection. C'est-à-dire qu'on voit très très bien, ils ne le reconnaissent pas, enfin, il y a toute une démarche. Puis surtout, on est dans l'invisible. Et tout d'un coup, il le perd. Emmaüs, c'est formidable pour ça. Tout d'un coup, ils le reconnaissent à un geste, bon, ce geste qu'est l'Eucharistie d'ailleurs, hein, faut pas se leurrer, et toute la route qu'est la découverte, le déchiffrement de la parole de l'Ancien Testament, c'est merveilleux, Emmaüs. Moi, je voudrais qu'on prenne ça à mon enterrement. Bon. Eh bien, ce texte d'Emmaüs qui est absolument génial, montre bien que le ressuscité, c'est pas une survie, c'est pas une deuxième vie comme dans les jeux électroniques, c'est vraiment l'accès à quelque chose sur lequel nos sens, on appréhende quelque chose avec nos sens, parce qu'on peut pas appréhender sans nos sens, mais très vite ça disparaît. Vous avez vu, Emmaüs, tout d'un coup, il s'est barré, si je puis dire, et ils se retrouvent tous les deux, mais justement il s'est passé quelque chose, c'est qu'ils ne sont plus comme avant. C'est ça qui est très important dans le récit d'Emmaüs, c'est qu'à l'instant même, ils retournèrent à Jérusalem pour annoncer aux 12. Alors, pas pour annoncer aux 12, mais les 12 leur disent « on a vu le Seigneur » et eux de raconter. Vous voyez, c'est une série de récits qui va dire « si, on a fait l'expérience qu'il est vivant ». Mais c'est une expérience qui est de l'ordre de la... qui n'est pas de l'ordre de la preuve. Aucun juif... autre que les disciples, aucun Romain, Pilate ou Caïphe ou les autres, n'ont vu Jésus ressuscité. Il n'apparaît justement que dans la foi, hein, ce qui montre bien qu'il y a un rapport dans la résurrection, alors que la Passion, là on est dans l'ordre de la... c'est une très belle façon de dire qu'est-ce que c'est que la mort du juste. Et Jésus a vécu cette mort du juste, il le signifie dans... Donc voilà, je pourrais accepter, ça ne me dérange pas que Jésus soit mort dans l'abandon de Dieu, qu'il ait pu dire la phrase. Et en même temps, à cause des différentes rédactions des récits de la Passion et des évangiles, je mets un doute sur la réalité de cette phrase-là. Il y avait d'autres psaumes qui auraient mieux convenu à la situation, s'il voulait exprimer sa confiance, plutôt que de dire la deuxième partie du psaume, c'est « Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur, sois avec moi ». C'est bourré de ça dans les psaumes, il aurait pu dire ça. Alors, ce n'est pas ça qu'il dit. Manifestement, le psaume insiste, c'est peut-être le psaume le plus fort pour signifier l'abandon de Dieu. Hein, le verset 2, on ne pouvait pas trouver plus... Voilà, alors écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à des choses plus drôles. Non, mais c'est un psaume qu'il faut... J'ai tenu à le prendre parce que justement, il y a quand même des... une très grosse incidence dans le Nouveau Testament. Et quoi, théologiquement, quand même, c'est très, très fort. Alors, on va commencer par le 133. Et on prendra ensuite le 117. Je vous avais donné une fiche pour travailler. Je vais vous redonner des munitions pour y voir clair. En regardant un des commentaires récents des psaumes, j'ai regardé au psaume 133 et quelle n'a pas été ma surprise de voir la longue bibliographie qu'on lui a consacrée. Il y a au moins une cinquantaine d'articles qui lui ont été consacrés. Et sur lequel, alors on a commis à peu près tous les contresens possibles, faute d'accéder à quelque chose que j'appellerais une lecture un peu symbolique. Si vous en restez à simplement ce qui est raconté, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Il y a un auteur qui dit, alors beaucoup d'auteurs, c'est là qu'il faut éliminer le, comment dire, ce genre de choses, enfin, il faut savoir que ça existe, faut surtout pas bricoler le texte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher du tout au texte, il faut le prendre tel qu'il est, et non pas essayer de rajouter des trucs pour que ça marche mieux avec une certaine, idée que je me ferai. Alors, la plupart, d'ailleurs, des difficultés viennent des comparaisons qui sont présentes dans le psaume, le rapport entre l'huile et l'eau, et d'autres viennent du fait que qu'est-ce que c'est que ces frères, enfin, qui sont les frères dans le psaume, etc. Vous voyez, il y a une difficulté qui est là. Alors, le fait que ce soit un psaume des montées, ne nous aide pas beaucoup, parce que dans les psaumes des montées, il y a des choses extrêmement différentes. Et comme j'ai dû vous le dire une fois dans le cours, les psaumes des montées, il y a 12 interprétations de ce que signifient les montées. Hein, ce n'est pas forcément les psaumes de pèlerinage. Parce que très peu parlent de Jérusalem. Hein. Alors, on va essayer de s'en tirer comme on va pouvoir, mais en sachant qu'un auteur a écrit que c'est le psaume le plus difficile de l'Ancien Testament. Donc, vous voyez, je ne vous fais pas de cadeau, on prend le psaume le plus difficile sur lequel on va essayer de clarifier les choses. Alors, peut-être une lecture d'abord. Alors, Shir Hamaalot le David, bon, psaume des cantiques ou chant des montées de David. Alors, en bon français, Innematov ou Manaim, Shevet Arim Gam Yarad. Alors, Inne, voici. Quand quelqu'un est appelé par Dieu, qu'est-ce qu'il répond? Inneni, me voici. Atsum en latin. Ma tov, combien est bon, ou ma naïm, et combien doux. Naïm, vous connaissez le mot. Vous connaissez pas un village qui s'appelle Naïm dans le Nouveau Testament? Hein? La veuve de Naïm. Ma naïm, c'est la douceur. Hein? Donc, qu'il est doux. Alors, tov, ça peut être bon, ou ça peut être beau, mais c'est bon, ou beau. Et Naïm, c'est la douceur. Alors, ce qui est la plupart du temps le paradigme, enfin, ou le prototype de la douceur, c'est le miel. Shevet Arim Gam Yahat. Shevet, ça veut dire s'asseoir. Ani Yoshev, je suis assis. Mais Yashav, ça peut vouloir dire régner. Et puis, plus largement, ça peut vouloir dire s'assembler. Voilà. Même un regroupement de personnes, en hébreu, c'est, vous connaissez les kibbutz surtout, hein. Mais il y a un autre système de vie en commun en Israël qui est moins connu, le kibbutz. Je dirais que tout l'argent va au kibbutz et on répartit ensuite les richesses, selon les richesses du kibbutz, à chacun des habitants. Il n'y a pas de personne n'a rien, si vous voulez. Tandis que le moshav, ça dérive du verbe yashav, qu'on pourrait traduire un établissement, ça peut être un village. Là, au contraire, c'est une espèce de coopérative où chacun reçoit chaque mois l'argent qu'il réinvestit ou pas dans le moshav. Et le kibbutz, vous connaissez, le kibbutz, ça veut dire rassembler. Hein. Et le moshav, c'est plutôt l'installation. Mais yashav, c'est à la fois s'asseoir, c'est le sens primitif. Ensuite, yashav, régner. C'est-à-dire, c'est une des images pour désigner la royauté, ça, siéger sur un trône, si vous voulez, hein, siéger sur un trône, et puis éventuellement s'assembler. Alors, Gam Yahad, de faire ça même dans l'unité, en un. On est plusieurs et en même temps, on forme une unité. Gam Yahad, ça veut dire même dans dans l'unité. Alors, Kashemen Atov. Vous aviez Tov au premier verset. Hein. Alors, Kashemen, comme l'huile. Atov, la bonne ou l'excellente. Al, Arosh. Alors, comme l'huile, la bonne, sur la tête, roche, c'est la tête. Yored al azaken, azaka, askon, oui, askon. L'huile qui tombe sur la barbe, c'est un mot que je ne connais pas très bien, ça. Raskon, c'est la barbe. Zaskan Aaron, alors on précise la barbe d'Aaron. She yored al pe midotayv. Alors, la barbe d'Aaron. Alors, qui descend? Alors, qui descend sur la barbe? Qui descend sur le bord de ses habits? Et au verset 3. Comme la rosée de l'Hermon, comme une rosée d'Hermon. C'est pas la rosée de l'Hermon, c'est comme une rosée d'Hermon. Chez Yored, qui tombe al Are Tzion, sur les montagnes ou les collines de Sion. Alors, qui Sham, car là. Alors, Tziva Adonai. Alors, Dieu a ordonné et Aberera, la bénédiction, Ayom Had Haolam, aujourd'hui et toujours. Bon, je vous l'ai lu en hébreu, mais pour vous montrer que c'est très concis. Hein. Là, il n'y a pas tellement de difficultés dans le texte. Alors, en bon français, ça va vous donner ça. Mais oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Bon, ils ont mis un peu de sauce. Hein. On dirait du baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait, ou alors comme, ou telle la rosée, ça dépend, la rosée de l'Hermon, ou une rosée d'Hermon, qui descend sur les collines de Sion, c'est là que Yahvé envoie la bénédiction et la vie pour toujours. Yahrayim, la vie, Ad Olam, c'est-à-dire la bénédiction, Rayim, la vie, si vous voulez, en gros, mot à mot, c'est « car là a ordonné le Seigneur la bénédiction », alors il faudrait presque mettre deux points, parce que c'est une apposition, « la vie pour toujours ». Ce n'est pas la bénédiction et la vie, c'est la bénédiction qui est vie pour toujours. Si vous regardez du côté du Targum, qu'est-ce qu'on a ? Je vous l'ai donné, hein. Et des différentes versions. Alors, le Targum, un chant qui était proféré concernant les montées des profondeurs, de par David, etc. Oh, quel plaisir, quel bonheur pour Sion et Jérusalem d'habiter comme deux frères ensemble. Alors là, il s'écarte, hein. C'est comme l'huile parfumée qui est versée sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le col de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Là, Yahvé a décidé la bénédiction et la vie pour toujours. Bien. En gros, il n'y a pas trop de difficultés. Texte, pratiquement il n'y a pas besoin de affiquer quoi que ce soit. Le texte, disons de la Septante, n'a pas des modifications fondamentales par rapport à ça. Bon. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce psaume ? Donc, vous avez en gros. On peut faire un petit A, il est bon, il est doux, c'est le bonheur. Petit B, comme l'huile qui descend. Petit B prime, comme la rosée qui descend. Petit A prime, la bénédiction et la vie à jamais. Hein, c'est facile. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? On en reste... Hein ? Ah, pourquoi la barbe d'Aaron ? Très bonne question. Très bonne question. Alors, Aaron, c'est l'archétype, vous savez, bon, c'est le frère de Moïse. Moïse a un frère qui s'appelle Aaron. Bien, ce Aaron, comme Moïse d'ailleurs, parce qu'ils sont frères, donc ils descendent du même, sont fils de Lévi. Vous savez que dans l'Ancien Testament, l'archétype du sacerdoce, c'est Lévi. Qui va générer, si vous voulez, Aaron. Bon. Et puis, à l'époque de David, les Aaronides, les descendants d'Aaron, qui sont des descendants de Lévi, mais au même titre que Moïse, vont se scinder en deux groupes. Ceux qui sont de Sadoc, Sadoc qui va donner l'onction à Salomon et à David. Donc, Sadoc, d'un côté, les Sadocites, et de l'autre, ceux d'Ébiatar. Alors, ils vont se battre à l'époque des Maccabées, c'est-à-dire deux siècles avant le Christ, pour le sacerdoce. En gros, c'est comme si vous aviez deux classes de prêtres, et au retour d'exil, on dit bien, ben voilà, descendants d'Ébiatar, il y a ceux-là, descendants de Sadoc, il y a ceux-là, et ils vont se battre entre eux, même se tuer entre eux, pour exercer le souverain pontificat. Assassiner des papes à certaines époques, bon, eux, ils pratiquaient ça aussi. Donc, Aaron, ici, représente un peu le sacerdoce, si vous voulez, hein, dans ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le texte ? Oui ? Comment ?
Donc, le sacerdoce est divisé.
Le sacerdoce est divisé. Mais ici, en prenant Aaron, alors il est divisé même en plus parce que il y a deux catégories de prêtres ou de grands prêtres, hein, les Sadokites et ceux qui descendent d'Abiatar, et vous avez une autre catégorie qui sont un peu les qui sont les Lévites. Alors les Lévites descendent bien de Lévi. Mais si vous voulez, c'est un peu les acolytes, enfin ceux qui font les sacristains, ceux qui font tout le boulot.
boulot secondaire. Vous auriez un peu les officiers sous officiers. Mais il faut distinguer entre les lévites, c'est tous ceux qui font les petites mains, si vous voulez. Hein. Et puis les prêtres, alors eux, ils descendent de deux catégories, Abiatar ou bien... Alors attention, hein, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. Alors généralement, vous chantez ça dans les camps scouts ou ailleurs. Inne matov umanahim shevet harim gamyarat. Puis on, hop, le reste, on le passe à la trappe. Hein. Parce que l'histoire de la barbe, de l'huile, là, on est où ? Là, c'est plus notre problème, ça. Bon. Comment ?
Le col de la tunique.
Le col de la tunique, oui. Alors... Le fait d'en mettre sur les... Parce que, oui, il y a une histoire qui raconte... elle est reprise dans, elle est dans la Bible, mais elle est reprise dans le Midrash. C'est que il fallait vraiment que, quand on versait l'onction, qu'on devenait prêtre ou roi, ou même prophète quelquefois, mais surtout prêtre et roi, non pas avec une formule du genre « En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais ceci, hein, je vous envoie votre lettre de mission », mais avec une corne d'huile que vous versiez sur la tête du client. Ça s'appelait l'onction, c'est-à-dire le roi reçoit une corne d'huile, c'est un rite d'investiture. Si vous voulez. Donc ça se fait pour le prêtre et ça se fait pour le roi. Alors, continuez vos questions, parce que j'ai la solution, mais je vais faire chercher encore 5 minutes. Oui, sur la barbe. Oui, ah ben c'est celle qui est donnée dans l'Exode, hein, à propos de l'investiture des prêtres, où on demande à Moïse d'en mettre, de ne pas y aller avec le dos de la cuillère, entre guillemets. Oui, mais alors lui, alors effectivement, il s'en va dans une autre direction à partir du... Mais enfin, il montre bien un peu à quoi sert le prêtre, quoi. Les rabbins enseignaient que 2 gouttes d'huile telles 2 perles étaient accrochées à la barbe d'Aaron. Alors, Moïse se dit, est-ce que j'ai bien mis l'huile où il fallait ? Bon, en gros. C'est alors qu'une voix divine s'avança et lui dit « Non, 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 c'est comme la rosée d'Hermon, il faut vraiment en mettre un bon paquet. » Quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, ce psaume ? C'est pas long, quand même, hein, on peut le mémoriser. Sans rien changer au texte, hein. Vous verrez que c'est sublime comme texte. Et ce qui peut vous arrêter, c'est effectivement cette espèce de rituel un peu archaïque. Alors, on n'en est pas loin. Il y a un rapport de verticalité, puisque à tel point que le texte, l'Hermon est quand même la plus haute montagne de l'endroit. Hein, c'est plus haut que... Or, c'est moins haut que les monts Liban, mais enfin, c'est que ça monte à 2400 ou quelque chose comme ça. Hein, c'est vraiment une très haute montagne. Et c'est de là que viennent les sources du Jourdain en particulier, ce qui fait que c'est vraiment très, très fertile. Je vais noter la hauteur de l'Hermon. C'est un 2814 mètres, vous voyez, c'est quand même pas rien. Et il y a de la neige l'hiver. Hein, c'est quand même... Et toute la flotte, en fait, du Jourdain vient de là. Hein, c'est ce qui vous explique là. Une source de richesse formidable, hein, l'Hermon. Alors, une partie de l'Hermon n'est pas en Israël. Syrie, Liban, enfin, vous voyez, ça fait un peu le... On voit très très bien quand on est au nord d'Israël. Sommet enneigé, absolument magnifique. Et toutes les sources du Jourdain, qui sont peut-être au nombre de sept, viennent de là. Quoi. Donc c'est vraiment la flotte, si vous cherchez de l'eau, c'est de là que ça vient. Donc l'Hermon, c'est comme l'autre jour, Bashan, à propos des taureaux, c'est plutôt un qualificatif qu'un locatif. C'est-à-dire ça qualifie une rosée d'Hermon et non pas la rosée de l'Hermon. Rosée d'Hermon, parce que les noms propres en hébreu prennent l'article. Hein. Une rosée d'Hermon, c'est une rosée. C'est de la... Voilà, il y a deux montagnes là, oui. Alors, oui, c'est un don à accueillir, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, est-ce que le vivre en frère est un résultat ou est-ce qu'il est une condition ? Est-ce que le vivre en frère est un résultat ? Et bon, ou est-ce que c'est une condition à l'unité, etc. Oui, et justement, ça dit quelque chose sur les sacrements, ce texte-là. Ah ben c'est complètement... Alors, ce qui fait la difficulté du texte, en fin de compte, je vais vous donner mon petit schéma. C'est ça que je termine par ce psaume-là, c'est qu'il est bourré d'ellipses. Vous savez qu'une ellipse, quand vous racontez une histoire, ou comme vous allez voir un film, vous avez quelquefois des films dont la durée de ce qui est raconté équivaut à la durée du film, c'est-à-dire que l'événement raconté dure 2 heures. Bon. Mais la plupart du temps, le film peut couvrir 4 siècles, 20 ans, une année, etc. Et on va vous ramasser ça en 1 heure. Alors, cette contraction, si vous voulez, entre les événements réellement survenus et le récit dans lequel ils prennent corps, pour faire cette contraction-là, j'ai besoin de faire des ellipses. C'est-à-dire, j'ai besoin de passer sous silence des détails. Par exemple, si je vous raconte ce qui s'est passé entre mon lever et mon arrivée dans la salle, je vais vous faire grâce des détails. Mais je dirais, bon, voilà, pour être à 10 heures ici, il fallait quand même que je me lève au moins à 10 heures moins 10, quoi. Hein. Bon, c'est plus tôt ce matin. Mais je dirais que je ne vais pas vous raconter tout ça, ça ne vous intéresse pas. Je vais dire, vous voyez, j'étais bien au Centre Sèvres à 10 heures, mais je n'habite pas le Centre Sèvres, je viens de la rue de Grenelle. Et les ennuis de démarrage. C'est l'ellipse là-dessus, c'est-à-dire je ne le raconte pas. J'avais failli me faire renverser par un camion, ça valait peut-être le coup de vous le dire. Parler de la mort, je viens de la frôler, bon. Donc vous voyez, ça aurait pu expliquer mon discours. Mais la plupart du temps, le récit n'équivaut pas à la séquence des événements racontés. Et surtout, je ne vais pas raconter les événements dans l'ordre où ils sont arrivés. Je me suis levé ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner, je suis descendu voir quelqu'un qui m'appelait. Ça, c'est du chronologique. Mais dans mon récit, eh bien, premièrement, je vais éliminer un certain nombre de choses et je vais arriver, en fait, à ce qui vous intéresse, vous, à savoir que j'étais bien là à 10 heures. Et vous pouvez en témoigner. Donc, je vais raconter mon récit en fonction de la finale qui était d'être présent à tel endroit. Bon, j'ai peut-être tout à fait banal, mais le psaume 133, c'est exactement ça. Il vous raconte quelque chose qui, en fait, renvoie à des séquences beaucoup plus larges qu'il faut restituer si on veut comprendre le récit. C'est-à-dire que si on ne restitue pas les ellipses, on ne le comprend pas. C'est pour ça que je termine par ce psaume-là, parce que c'est du sport de restituer ce qui manque dans un texte. Alors, ce qu'on va faire après une petite pause, hein, je vais vous restituer toutes les ellipses et je vais dire « Ah mais oui, mais c'est extraordinaire !» Oui. Non, parce que l'Hermon est une frontière et Sillon est plutôt un centre. Mais vous allez voir, avec le petit, je vais vous donner deux schémas. Et tout de suite, ça va vous dire, mais tiens, mais effectivement, quand on restitue les ellipses, il faut lire le psaume dans l'autre sens où il est écrit, comme souvent. Donc, une petite pause et on se retrouve là pour finir. On reprend. Voilà. Est-ce que tout le monde a une petite feuille intitulée « Du texte au récit » Tout le monde a cette feuille? Donc on peut y aller. Alors vous fermez la porte comme ça. Ils ne pourront plus rentrer. Voilà, là, parce que c'est la dernière d'air, je ne pourrais pas vous dire, on fera ça la prochaine fois. Alors, en fin de compte, toute la plupart des difficultés de ce psaume-là sont levées si on accepte qu'il y a un écart entre le texte et le récit. Le récit, c'est ce qui s'est passé ou ce à quoi ça renvoie, et le texte, c'est le texte tel que nous l'avons dans sa formalité à un mot près, hein, puisque tout est compté dans un psaume. Donc la difficulté des poèmes, la plupart du temps, plus un poème est court, plus il est difficile parce qu'il est crypté, c'est-à-dire qu'il fait des tas d'ellipses, il fait des tas d'allusions. Et du coup, si on n'a pas tout ce qui peut aller derrière, eh bien, on est coincé. Donc, il faut restituer de la chair pour comprendre le texte qui, lui, n'est qu'un concentré de quelque chose qui était beaucoup plus large au début. Alors, pour vous montrer comment ça marche, j'ai fait un petit schéma que je vous ai donné, tout le monde là. Et vous allez voir, c'est relativement simple une fois qu'on a ce schéma. Seulement pour le faire, c'est un casse-tête. Bon, le fait que ça commence par « innematov ou manaim », que ça commence par deux mots comme le bonheur et la douceur, peut les prendre comme une clé d'interprétation de la suite du psaume. Et au fond, vous avez vu dans mon schéma, je vois qu'un, oui, vous avez le schéma, hein. On peut distinguer que le bonheur ou la douceur, et ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'elle est thématisée à travers ce mot tov, qui est polyvalent, et le mot naïm, qui est plus rare, Mais au fond, bonheur, douceur, c'est quelque chose qui connote bien le bonheur. On peut décliner le bonheur sur un aspect individuel, être heureux personnellement ou être heureux collectivement. Vous suivez mon schéma, hein. Donc, qu'est-ce que cherche l'homme ? Le bonheur. On est d'accord. Le mot « homme » n'est pas dans le texte. Le mot « bonheur » y est, et même il est dédoublé avec le mot « douceur ». Qu'est-ce que c'est que le bonheur individuel ? C'est être riche. Pour la Bible, hein, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est qu'être riche ? Ou par quoi passe la richesse ? Par une terre fertile. Tout ça, ce n'est pas dans le texte. Ah, il y a quand même un truc qui va apparaître, c'est que un des signes de la terre fertile ou de la terre promise dans sa fertilité, c'est trois choses. C'est le blé, le mou et l'huile, les oliviers. C'est-à-dire la vigne, l'olivier et le blé, enfin les céréales, sont les trois richesses de la terre promise. Ça revient dans tout le Deutéronome et ailleurs. Eh bien ici, il n'est pas question d'olivier, mais ça suppose qu'il y ait des oliviers puisqu'on a de l'huile. Eux, ils ne font de l'huile qu'avec des olives. Ils ne connaissent pas d'autre huile que celle-là. C'est important à savoir. Et le signe, si vous voulez, que la terre est riche, que la terre est fertile, que la terre est bonne, c'est qu'il y a des oliviers, et que ces oliviers, non seulement ne donnent de l'huile, mais donnent de la bonne huile. Hein, puisqu'on a parlé d'huile parfumée ou abondante. Le mot ici, kashemen atov, c'est de la bonne huile. Hein, c'est exactement le même mot que le mot bonheur. Huile de bonheur, l'huile bonne, l'huile parfaite, l'huile parfumée, si vous voulez être un peu puriste. Pour moi, la qualité d'une huile n'est pas forcément dans son parfum. Enfin, la plupart des huiles sont quand même dégagent un parfum. Voilà pour ce qui est du bonheur individuel, donc d'avoir des oliviers, d'avoir de l'huile en abondance, parmi beaucoup d'autres choses, mais si j'ai de l'huile, c'est que j'ai vraiment une bonne terre. Parce que pour avoir du blé, en un an ou deux, j'en ai. Hein, des blés ou céréales, j'en ai. Pour avoir de la vigne, 4-5 ans, 10 ans, quelquefois. Et pour avoir des oliviers, alors là, mes amis, encore plus. Donc ça suppose la longue durée, vous voyez. Colonne de droite. Qu'est-ce que c'est que le bonheur collectif ? Ah, c'est d'être unis. J'ai mis être ensemble, mais être unis. L'unité nationale, c'est un truc qui est pas mal. Qu'est-ce qui rend possible l'unité, selon la Bible ? C'est une terre possédée. Tout ça, c'est pas dans le texte. Mais on sait qu'au milieu de cette terre, il y a un signe parmi d'autres de la terre possédée, de l'unité de cette terre, bah, c'est le mont Sion, et le temple. Et le signe des signes, à l'intérieur du temple, c'est le culte, qui bien entendu est géré par les prêtres à Aaron. Et je dirais que grâce au culte, alors c'est là que on va basculer de l'autre côté, vous voyez mes flèches, hein, faut suivre le sens de l'histoire, eh bien, si les prêtres font bien leur boulot, c'est-à-dire, s'ils sont bien prêtres, donc ils reçoivent l'onction sacerdotale qui vient de l'autre côté, vous voyez, qui vient de l'huile. Bon, il y a un basculement. Eh bien, en gros, ils produisent la bénédiction et la vie, et cette vie est abondante comme une rosée d'Hermon, et pour avoir des oliviers qui poussent dans une terre, il faut de l'eau. Et un peu le système. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la richesse, c'est d'avoir une terre et c'est d'être riche. Être riche, c'est avoir une terre. Avoir une terre, c'est avoir une terre qui produit des choses bonnes. Et le bon du bon, c'est les oliviers qui produit une bonne huile. Bon, mais je suis coincé là. parce que je ne peux plus rien faire. J'ai beau cultiver mon jardin ou mon parc, il me faut autre chose, il me faut de l'eau. Et l'eau, ce n'est pas moi qui la donne. L'eau, justement, elle est donnée de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai mis Dieu en bas. Exceptionnellement, on vaut mieux le mettre en haut d'habitude. Hein. Mais la bénédiction et la vie, ça, je ne peux pas me l'accorder. C'est Dieu qui l'accorde. Et qui l'accorde sous la forme d'une rosée abondante, laquelle rosée abondante, conjuguée à la terre et aux arbres, me donne de la bonne huile. Mais faut, de l'autre côté, il faut qu'il y ait une circularité entre la production d'huile et la production d'eau, si je puis dire. Mais qu'est-ce qui va me permettre d'allier l'eau et l'huile? Deuxième schéma. Alors, il n'est pas de moi, ce schéma, parce que je ne sais pas faire des schémas. Il est d'une élève. Vous l'avez ? Merci. Très bien. Alors, donc, l'idée, en fait, c'est, on voit bien que le bonheur, par Anne Almodovar, donc, qui est une ancienne étudiante du centre avec qui je fais ce genre de petit travail et qui est très douée pour ce genre de choses. Alors là, elle a inversé mon système du schéma. Parce qu'on arrive à la phase finale. Mais vous avez un mot qui est très important dans le texte, c'est il y a le mont Sillon et le mont Hermon. Mont Sillon, mont Hermon. Hermon, synonyme d'eau. Sillon, synonyme à la fois de culte et d'unité nationale. C'est vraiment, c'est là qu'est le temple, c'est là qu'est le sacerdoce, enfin, c'est là que ça se concentre. Alors, Dieu, lui, dans la sphère du haut, peut donner la bénédiction et la vie. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction ? C'est la richesse. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est la richesse, hein, sous toutes ses formes. Et la bénédiction, c'est aussi la possibilité de l'unité nationale. Bien. Alors, d'une certaine façon, Dieu, sur la face droite, fait couler de l'eau en abondance. Vous apercevez l'eau. Bon. L'eau qui tombe, et la bénédiction à travers l'eau qui tombe là, à un endroit précis, qui est Sillon. Bien, là où sont les hommes et qui peuvent connaître le bonheur. Mais, d'une certaine façon, il y a un lien entre la bénédiction et la vie que je reçois et le rôle du sacerdoce qui est justement de déclencher ce système. C'est-à-dire que on est dans un cycle, il faut passer de Dieu aux hommes, et ceux qui permettent de passer de Dieu aux hommes, ce sont les prêtres. À quoi sert le culte? Le culte, il articule la possibilité, tout à l'heure vous me parliez du haut et du bas, C'est clair qu'il y a le haut et le bas. L'Hermont, tout ça, c'est dans le haut. Et Dieu, c'est Dieu qui déclenche l'eau, moi j'y peux rien. Et grâce à l'eau et à la bonne terre qui a été donnée aussi par Dieu, j'ai l'huile. Mais le circuit ne peut fonctionner que si, à mon tour, je prends de cette huile en abondance, et si possible la meilleure, pour la mettre sur les prêtres, c'est-à-dire dans l'onction des prêtres. En d'autres termes, pour faire vu le trivial, je dirais, si vous voulez vraiment une rosée abondante, pour faire pousser vos oliviers, tout ce que vous avez, qui seront signes de richesse et de bonheur, n'hésitez pas à mettre une bonne quantité d'huile sur Aaron, hein, et que ça coule partout. C'est-à-dire que, pas simplement une petite onction comme on fait nous au baptême, vous savez, on en met le moins possible. Vraiment, simplement, hein, une trace. Là, au contraire, le type, il est complètement arrosé. Alors, celui qui a écrit le psaume, il dit, n'hésitez surtout pas à en mettre, hein, parce que plus vous allez en mettre, c'est pas à fond perdu, vous allez retrouver ça en eau, à un moment donné, puisque le rôle du prêtre, c'est justement d'assurer la liaison entre la bénédiction qui vient de Dieu et, je dirais, la richesse humaine. Et si les prêtres font bien leur boulot, parce qu'il insiste, c'est là, pas ailleurs, donc c'est à Sion, dans le temple, que se joue l'unité, c'est-à-dire qu'on joue ici sur une unité non pas royale, mais une unité cultuelle. C'est-à-dire que le rôle des prêtres, c'est d'assurer cette unité, et du coup, les prêtres font leur travail, non seulement on aura la richesse de l'huile et de l'eau, etc., tout ce qu'il nous faut, mais de plus, il y aura une unité qui va se faire et on va pouvoir vivre en frères, c'est-à-dire que c'est la grande tradition du Deutéronome, tous les Israélites sont frères et doivent vivre en frères, mais on ajoute ici dans l'unité, pas simplement mais gam yarad, être en frère, mais comme un, comme étant un. On est plusieurs, mais on est un. Vous voyez un peu ce que dit le texte. Shevet yarim gam yarad, être ensemble, mais à plusieurs, on est un. Et du coup, ça vous donne ce qui est en bas. Les hommes vivent comme des frères et unis. Et on voit très bien que ce psaume-là, bien entendu, il est là pour montrer la signification du culte et du sacerdoce en Israël, qui est un facteur d'unité et à la fois un facteur de relier les hommes à Dieu. Et il faut qu'il y ait un aller-retour, c'est-à-dire que Dieu peut donner la bénédiction et la vie sous la forme de l'eau, et en même temps, il faut que les hommes rendent à Dieu quelque chose qu'ils ont reçu de Dieu, sous une forme absolument gratuite, qui est l'huile, parce que l'huile est un produit précieux, qu'on va mettre en quantité sur les prêtres. Bon, en gros, si vous prenez la prière de l'offertoire que nous disons dans les messes, c'est exactement ça qu'on fait. Seigneur, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, j'ajoute, hein, fruit du travail, fruit du travail des hommes, aussi don de Dieu et fruit du travail des hommes, en échange, donne-nous le corps de ton propre fils et qu'il devienne le pain de la vie et le pain du salut, hein, le vin du royaume. Vous voyez, il y a une espèce de jeu dans ce psaume 133, il y a tout l'offertoire. C'est-à-dire que nous considérons que tout ce que nous avons reçu, de tous les biens que nous avons reçus, ils viennent de Dieu comme bénédiction et comme vie. Et en même temps, nous les retournons à Dieu pour signifier que ce sont des dons et que ce ne sont pas des choses que nous nous approprions. Et la fonction du sacerdoce, c'est de montrer justement la désappropriation totale de ces dons reçus de Dieu. Considérer que tout ce que nous avons, la terre, l'huile et le reste, sont des dons de Dieu. Et la fonction du sacerdoce est de signifier la gratuité du don que Dieu nous fait. Qui est très riche au point de vue théologique.
Oui. Alors, oui, alors justement, il ne développe pas du tout cet aspect-là, parce qu'il prend un aspect simplement qui est au fond, quelle est la fonction du sacerdoce ou du culte dans l'unité nationale. C'est ça son problème, en fait. Hein. Donc, si je devais donner un titre à ce psaume-là, je dirais comment articuler, c'est un titre un peu long, hein, mais comment articuler la bénédiction que Dieu nous donne, ou par quel moyen la bénédiction que Dieu nous fait ou nous donne passe-t-elle à travers notre communauté nationale ou à travers chacune des personnes. C'est-à-dire qu'on voit bien que le bonheur n'est pas simplement un bonheur collectif, mais un bonheur individuel. Il faut qu'il y ait les deux. Et les deux s'articulent justement dans l'huile, qui est à la fois un produit qui vient d'une terre précise et qui en même temps a une destination presque divine, quoi, sacramentelle. Ouais.
Et après, il a peiné à...
Ah ben, c'est-à-dire, oui, je vois bien votre problème. En fait, ce psaume-là, il peut être très tardif, hein, peu importe les dates, mais il suppose l'existence du temple. Hein, il suppose l'existence du temple, et manifestement, celui qui l'a écrit est un prêtre, hein, pour dire quelle est la fonction du culte ou du sacerdoce. Et bien entendu, le Deutéronome n'a pas du tout cette vision de la bénédiction ou de la vie à travers le culte. Il en parle très très peu de ça. Mais certaines couches de l'Ancien Testament, plus marquées par le sacerdoce ou le culte, vont insister là-dessus. Les prophètes ne seraient pas contre ce psaume-là, hein, en disant qu'il y a un rapport quand même entre ce que je fais envers Dieu et ce que je fais envers les autres. Alors ici, il n'y a pas du tout d'éthique de la vie morale. Hein. Voilà, c'est occulté. Ça va de soi que si le culte joue bien son rôle. Alors, ils sont dans une vision du culte. Alors, les prophètes seraient contre. Hein. Alors, les prophètes ne sont pas, ou Jésus ne sont pas contre le culte, au contraire. Ils sont pour, à condition que le culte ne soit pas l'occasion de le détourner de son sens. C'est-à-dire que vous êtes des salauds, vous m'apportez des animaux que vous ne pouvez pas vendre au marché et vous me les sacrifiez. Hein. Vous venez faire toutes vos dévotions au temple, et pendant ce temps-là, vous laissez crever de faim vos voisins. C'est ce que j'appelle le détournement du culte. Le prêtre qui écrit ce psaume-là n'envisage pas cette possibilité. Lui, il pense que la fonction du culte, dans son essence, c'est vraiment de fournir la richesse, enfin le bonheur au peuple et à l'individu. Mais il n'imagine pas qu'on puisse pervertir le culte. Et quand on est ordonné jeune prêtre, on ne pense pas qu'un jour on puisse pervertir, le lendemain de son ordination, qu'on ait envie de faire ça pour gagner du fric. Je veux dire, ça ne vient pas à l'esprit tout de suite. Quoi. Ça peut venir après. Hein. Mais c'est probablement un prêtre qui est qui est conscient de ce que c'est que le sacerdoce, de la fonction sociale et de la fonction sacrale que ça peut jouer, dans le meilleur sens du terme. Le sacerdoce a été ça à un moment donné. Probablement après l'exil, d'ailleurs, plutôt qu'avant. Restauré dans sa splendeur, Ben, le culte, c'est quelque chose qui est quand même pas mal. Et pas du tout. Alors nous, on a une vision du culte juif à travers les prophètes ou à travers ce que Jésus peut en dire. Hein. Mais en fin de compte, il faut retrouver le sens de ce qu'était le culte, qui a quand même été une très bonne chose, et que nous avons repris, nous, dans la liturgie. J'ai pensé à l'offertoire, mais enfin, il y a d'autres moments. Signifie justement cette symbiose entre le haut et le bas, entre les biens de la terre et les biens du ciel. Enfin, il y a une articulation des deux. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le culte, et en même temps, à l'intérieur du culte, la personne qui est cet intermédiaire qu'est le prêtre. Sans que ce soit sa sorte de talisation. Justement, ce que le Nouveau Testament va complètement déboulonner, c'est que le sacerdoce n'est pas... il va enlever tout le... Pour désigner ceux qui s'occupent des églises, enfin, ou qui font quelque chose dans l'église, il va enlever tout le langage sacral ou tout le langage sacerdotal. Il n'y en a qu'un qui est le sacerdoce, qui est le prêtre par excellence, c'est le Christ. Nous ne sommes que des ministres du Christ. On enlève, on est des serviteurs, on est des disciples. Donc le Nouveau Testament va désacraliser ce culte qui avait été perverti au cours des âges. Là, je dirais, on a le culte dans sa phase la plus belle, dans sa plus belle fonction, qu'on peut retrouver de manière chrétienne. Mais le culte de l'Ancien Testament a été complètement sécularisé, si je puis dire, avec le Nouveau, où il évite à chaque fois. Moi, je suis toujours affolé quand je vois sur des images des nations « Tu es sacerdoce in eternum » ou bien « sera ordonné, recevra le sacerdoce, je ne sais pas quoi ». Vatican II nous a rétabli dans un vocabulaire à peu près sain, même le rituel en latin qui en est sorti ne parle plus maintenant du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le Christ, et nous, le sacerdoce du Christ, nous y participons tous en tant que baptisés. Il y a un sacerdoce des baptisés, vous tous, vous participez au sacerdoce du Christ. Et nous, les ministres, nous accomplissons des fonctions qui ne sont pas simplement sacerdotales. Il y en a d'autres. C'est pour ça qu'on parle d'ordination à l'épiscopat, d'ordination au diaconat et d'ordination au presbytérat. Mais le problème, c'est qu'en français, il y a une confusion, parce que le mot prêtre dérive de presbytéros, qui signifie l'ancien, mais il traduit aussi le mot latin sacerdoce. Et le mot sacerdoce, qui signifie entre guillemets le prêtre, hein, au sens, a été projeté sur la figure du prêtre dans la tradition. Et il y a confusion, si vous voulez, dans le langage, parce que le latin, il connaît bien les deux mots, presbytère, qui signifie l'ancien, et le sacerdoce. Et on a appliqué à des personnes le terme de prêtre, même en latin. Vatican II s'est arrangé pour que le mot sacerdoce ne convienne qu'au Christ. Et le mot presbytère, le mot ancien, convient à des personnes. Vous voyez, c'est important. Alors ici, au contraire, on est dans une toute autre problématique où le sacerdoce est vraiment... Vous avez un texte du Nouveau Testament qui est extraordinaire, qui est l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, qui était le texte, au fond, le moins, le moins facile à christianiser, est le texte probablement le plus génial en termes d'acculturation ou d'inculturation ou de christianisation d'un texte de l'Ancien Testament, puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit... Le Christ est le sacerdoce, c'est-à-dire le prêtre définitif. Il est à la fois la victime, il est l'autel, etc. Bon, et grâce à lui, comme prêtre, il nous réconcilie avec Dieu et il réussit ce que tous les sacrifices de l'Ancien Testament n'avaient jamais réussi à faire,
à faire une fois pour toutes cette réconciliation avec Dieu ou ce pontage entre Dieu et les hommes. Bon, l'épître aux Hébreux, c'est, si vous n'avez pas ça un peu en tête, vous aurez du mal à comprendre ce que c'est que le sacerdoce du Christ. Mais pour ce qui est dans ce psaume-là, ça s'applique très très bien au sacerdoce du Christ, mais pas au sacerdoce ni des fidèles, ni des prêtres. Ça, c'est des confusions. Oui, il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. Le bonheur, mais seulement pour... qu'est-ce que c'est que le bonheur? Pourquoi il est question d'huile? Bon, d'où vient l'huile, etc. Donc, il faut reconstituer un récit originaire à travers le petit tableau pour constater qu'il y a une articulation à un moment donné entre Dieu et les hommes, hein, entre les arbres et la terre, mais il manque un truc. Pour avoir de l'huile, il manque l'eau. Or, l'eau, je ne peux pas me la donner. C'est Dieu qui la donne. Et qu'est-ce qui déclenche le phénomène de bénédiction et de vie sous la forme de l'eau? C'est l'offrande des prêtres. Et il ne faut pas hésiter à signifier la gratuité dans l'onction des prêtres, et en mettant plus qu'il en faut. Vous voulez beaucoup d'eau de l'Hermon, si vous voulez une rosée d'Hermon, il faut vraiment qu'il y ait un arrosage des prêtres. Alors, en fait, il est en train d'interpréter un rite qu'on n'avait pas forcément compris jusque-là, qui était, mais pourquoi faut mettre tant d'huile sur la tête du prêtre? Pourquoi faut en mettre autant? Si elle est donnée, c'est à la mesure où je ratifie mes prêtres, c'est à cette mesure-là que Dieu me répandra la rosée ou l'eau pour faire pousser encore plus d'oliviers. Quoi. Un peu comment ça fonctionne. Donc il est pas mal ce psaume-là, il est pas long. Et il dit des choses plus profondes simplement. Dans les camps scouts, il est bon qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. Bon, c'est sympa, bon. Mais c'est pas ça qu'il veut dire. Lui, il dit un peu comment cette unité se fait et qu'est-ce qu'elle signifie. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, mais de temps en temps, il craint quand même des sécheresses. Hein. Alors, il se pose des questions. Pourquoi il y a la sécheresse? Alors nous, parce qu'il y a la couche d'ozone, enfin je ne sais pas quoi, on a une explication scientifique. Pour eux, il est clair que s'il n'y a pas eu de pluie, comme il y aurait dû y avoir, peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour rendre à Dieu... Au fond, le culte, c'est le lieu où je rends à Dieu une part des biens qu'il me donne. C'est très bien exprimé dans la prière d'offertoire. Signifier justement que c'est pas à nous que ça appartient, c'est lui qui nous l'a donné. Alors, je vais peut-être pas... Le 117, si vous voulez, vous avez une fiche qui est... Ah ben eux, ça ne les dérange pas, ça. Sinon, quand même, que ce n'est pas n'importe où que ça tombe. C'est-à-dire, ça tombe à Sion, là où est le vrai Dieu. Mais qu'il soit, vous trouveriez certainement cette conception-là chez les païens. Je veux dire, la signification du culte ou du sacerdoce dans les religions, enfin, ou dans les ethnies qui ont ce genre-là, vous trouveriez cette structure fondamentale qui est la même. Ici, la seule différence, c'est qu'on a des noms propres quand même. On a Aaron, qui est quand même choisi pour être prêtre, et on a le mont Sion, qui est la montagne que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom, comme dit le psaume. C'est-à-dire que les noms propres vous obligent quand même à, au moins à judaïser quelque chose qui est tout à fait classique dans le paganisme. Alors, pour le psaume 117, je ne vais pas faire de longs discours, simplement que c'est aussi un psaume compliqué parce qu'il pose un problème un peu inédit jusque-là. C'est le plus court de tous les psaumes, mais on dit « Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays ». Même à Thésée, on ne chante que cette partie-là. Hein. « Laudate Dominum omnes gentes ». Après, oh, oui, voilà, on s'arrête là hein. Et on oublie de pourquoi on dit au peuple de louer Dieu pour ce qu'il a fait à nous à Sion ou à Israël. C'est vachement marrant, c'est-à-dire qu'on est en train de dire au peuple, vous louez Dieu, notre Dieu, hein, louez-le pour ce qu'il nous a fait. Ou ce qu'il vous a fait, nous on s'en fout, mais pour ce qu'il nous a fait, ça vaut le coup de le louer. Alors ça, c'est quand même étonnant, et je crois que dans la fiche, je vous ai donné un peu la clé du problème. Il suppose quand même que les païens sont associés d'une façon ou d'une autre à la louange. Alors avec ces deux mots, pourquoi on loue Dieu ou pourquoi les païens sont invités à louer Dieu, pour l'amour et la fidélité qu'il a manifesté à Israël, c'est-à-dire chesed vehemet, qui sont deux mots intraduisibles, mais qui sont la... en quelque sorte, l'attachement de Dieu à son peuple. Alors, puisque le cours est presque fini, peut-être quelques petits conseils pour poursuivre hein, la route. On a fait des psaumes qui posent chacun des problèmes différents. Hein. La panoplie, on aurait pu en faire d'autres. Mais cela pose des problèmes... ceux qu'on a fait posent des problèmes théologiques sérieux qui supposent une assez bonne connaissance de la Bible et en général qui posent des problèmes de poétique un peu différents. Chacun, vous avez vu celui-là, le problème des ellipses est un peu un problème difficile à résoudre. Bon. Donc on a fait un peu tout le système. Alors ce que vous pourriez vous amuser à faire maintenant si vous ne voulez pas perdre l'acquis du cours, dont le but n'était pas forcément de vous dire ce qu'il y a dans la boîte de conserve des psaumes, mais de vous donner une caisse à outils pour en étudier d'autres, c'est de vous amuser en étudier d'autres avec vos crayons de couleur, là, hein, vous amuser, disant que bon, les procédures que je vous ai données de repérer des structures, comment la sémantique fonctionne. Bon, là, vous avez quelques outillages. Mais ne faites ça qu'après avoir fait une lecture gustative du texte, en essayant au maximum de vous faire une intuition, et après vous la vérifiez à travers un certain nombre de méthodes. Mais au début, il faut d'abord appliquer la méthode de manière un peu rigoureuse, ce qu'on a fait. Puis au bout d'un certain temps, je m'affranchis moi-même un peu de la méthode, en disant, ben oui, pour ce psaume-là, je dirais que la structure, on ne va pas y passer une demi-heure, même s'il y a beaucoup d'articles là-dessus. On va tout de suite à la sémantique, c'est là qu'est le problème. Bon, et la sémantique est plus difficile à décortiquer dans ce psaume-là que dans d'autres. De même, dans le psaume 2, on a la perfection, si vous voulez, d'une structure absolument parfaite et une sémantique absolument éblouissante, hein, avec le rapport à l'espace, le rapport au temps, enfin tout ça, c'est magnifiquement... Vous voyez, il y a un peu une... Si vous n'avez pas une intuition au démarrage, ça va... Je veux dire, vous allez rester un peu muet devant le texte. Alors, est-ce qu'il faut utiliser les commentaires qui ont été écrits? Ben, oui, il faut vous en servir, mais vous serez souvent déçus par les commentaires parce que ils discutent de problèmes qui, à la limite, ne vous intéressent pas. Je veux dire... Par exemple, Gunkel, il y a toute une page dans ce grand commentaire, qui est un des derniers, Gunkel ne peut pas penser que la rosée de l'Hermont tombe à Sillon, parce qu'il y a quand même il y a 120 km, 150 km entre les deux. Alors, il remplace Sillon par Ione, qui est un petit monticule à côté du mont Hermont. Vous voyez, il ne peut pas rentrer dans le symbolique. À l'époque, on ne pouvait pas, il fallait que ce soit historique.
alors que les psaumes relèvent aussi d'une culture symbolique. Comment la rosée de l'Hermont peut tomber à Sillon ? Ben, il peut y avoir une rosée épouvantable à Paris, mais qui ressemble à ce qui tombe dans les Alpes ou sur la Côte d'Azur en ce moment. Vous voyez ? Donc je peux parler, s'il y a une crue à Paris, on dira, oh, c'est une crue genre Côte d'Azur, vous voyez ? Bon, en fait, parce qu'ils en ont ramassé là, pendant les... Donc, si vous n'accédez pas au symbolique, vous allez tomber sur des problèmes qui, bon, moi, n'ont plus d'intérêt, si vous voulez. Ça ne m'intéresse pas, moi. Surtout si on touche au texte, c'est-à-dire si on transforme le texte pour que ça ait du sens, puis ça aplatit le truc. Vous voyez, là, c'est quand même, y a quand même une richesse théologique qui apparaît si on accepte de rapprocher Hermont et Sillon, mais ce n'est pas un rapprochement spatial, vous voyez. Et, si vous avez, et puis alors peut-être vous amusez maintenant que vous savez comment sont les psaumes d'en fabriquer vous-même. Je vous ai donné la structure, hein. Donc vous en fabriquez vous-même et vous verrez que ça donne des choses pas mal. Mais essayez toujours à la fin d'un commentaire de faire un schéma. Voilà, vous faites un schéma. S'ils sont bons, vous me les envoyez, hein. Ça peut servir pendant les cours. Mais il n'est pas parfait, celui-là, on voit bien. Il manque encore des petits trucs. Mais on peut perfectionner certains... Je crois que quand on a réussi à mettre... Par exemple, le psaume 22, après avoir fait le cours l'autre jour, j'ai passé toute la journée à essayer de refaire un schéma. Bon, je crois que j'ai compris un petit peu des affaires. Bon. Mais on trouve ça après le cours, vous voyez. Voilà, bah écoutez, il est midi et je vous souhaite continuer. Voilà. Alors, il y a des petites fiches bleues, je crois, à remplir. S'ils ne sont pas là, elles sont là, les fiches bleues, non ? Ou elles sont à l'accueil ? Vous pouvez dire tout le bien et le mal que vous voulez du professeur. Et l'an prochain, peut-être que je ferai un cours, soit la sagesse, soit la Genèse. Sensiblement, peut-être pas le samedi matin, le jeudi, parce que j'ai des problèmes. Comme je fais cours le mercredi soir, le jeudi matin, je suis pas forcément. Voilà. Mais ce serait la matinée vous va, en gros. C'est des choses qu'il faut dire dans les feuilles bleues, ça. Hein, c'est des choses qu'il faut dire dans les feuilles d'évaluation. Qu'est-ce qu'il faut que je vous envoie alors ?